Merci d'être avec nous sur France Culture. Voici l'Esprit Public, un autre regard sur l'actualité de la semaine avec nos visiteurs du dimanche. Aujourd'hui, l'historienne de la psychanalyse Elisabeth Roudinesco, le philosophe François-Xavier Bellamy, le politologue Dominique Régnier et le directeur du think tank Terra Nova Thierry Pêche. Au sommaire ce dimanche, centenaire du 11 novembre, l'itinérance mémorielle et très politique du président Macron sera-t-elle errance ou renaissance? Et après l'élection de Jair Bolsonaro au Brésil, à chaque continent, c'est populiste? C'était le genre d'opération qu'adorait le jeune président féru d'histoire et amateur de plans de communication inédits. Emmanuel Macron entamerait donc ce soir à Strasbourg et pour toute la semaine une itinérance mémorielle et politique sur les lieux de la Grande Guerre. Un voyage préparé depuis près d'un an, disait l'Élysée, qui verrait le chef de l'État en Moselle lundi, à Verdun mardi, puis la Marne, puis les Ardennes mercredi, avec un conseil des ministres délocalisé à Charleville-Mézières, puis le Nord, la Somme et le Pas-de-Calais jeudi et vendredi. Samedi, la clairière de Rotonde, dans l'Oise, lieu de la signature de l'armistice, où il rejoindrait Angela Merkel, image qui en évoquerait bien sûr une autre, celle de Mitterrand et de Kohl, à Douaumont, en 1984. À chaque étape, précisait l'Élysée, en parallèle des enjeux mémoriaux, le président ne manquerait pas d'évoquer les préoccupations actuelles des départements visités. Comme un faux air de campagne électorale à 7 mois des européennes. Enfin, dimanche prochain, retour à Paris pour la traditionnelle cérémonie sur la tombe du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, en présence de plusieurs dizaines de dirigeants étrangers, dont Donald Trump et Vladimir Poutine. On retrouvait une nouvelle fois ce pari très macronien d'en passer par l'histoire, c'est-à-dire par le passé, pour réparer le présent. Profiter d'un centenaire pour renouer un lien que certains disaient abîmé avec les Français, faire nation par la commémoration, retrouver le contact et le lien direct avec le peuple, les élus locaux, la province, tout en organisant au final un grand raout diplomatique qui devait rappeler les vertus du multilatéralisme pour éviter les guerres. C'est ce qui s'appelait prosaïquement « marquer le coup, mettre le paquet », bref, réaliser une opération politique de grande ampleur, tous azimuts. Alors c'est vrai, au moment de lancer l'offensive, le plan de bataille semblait très au point. Mais que donnerait-il dans un pays où l'on entendait désormais monter une toute autre musique?
À Lille ce matin, pas encore d'action, mais des gilets jaunes mis en évidence en vue du grand rassemblement national prévu le 17 novembre prochain.
Bloquer tout, on va tout bloquer. Centres commerciaux, on va. S'il faut bloquer les autoroutes, on va les bloquer, on va tout bloquer.
Pas sûr que ça marche, mais il faut taper du poing sur la table de temps en temps.
On en a marre qu'on nous prenne pour des vaches à lait, de payer, tout le temps payer, alors que les héros, là, ils roulent en grosse bagnole avec chauffeur, et puis que nous, nous assassinent. C'est du racket, c'est de l'harcèlement.
Quel que soit l'achat qu'on fait aujourd'hui, on se fait taxer. Donc se dire aujourd'hui, les gens, ils travaillent pour quoi en fait? Pour payer des taxes et survivre. Il faut que l'État, il se mette à la page du 21e siècle, et les gens, ils ont aussi, eux, envie de vivre.
Les mots des Français entendus cette semaine, et notamment sur la question des carburants et du pouvoir d'achat, il attend beaucoup Thierry Pêche. Manifestement, le président de ce centenaire, je l'ai dit, se réconcilier avec les Français, avec les territoires, faire passer aussi un message géopolitique sur l'importance du multilatéralisme. Il joue gros dans cette affaire.
Oui, bah, il joue gros parce que l'été a été très difficile pour lui, pour sa popularité. Mais je crois qu'il faut quand même s'arrêter. Bon, c'est le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Il faut, au-delà des stratégies, des intérêts politiques, se demander qu'est-ce qu'on célèbre? À quoi on veut réfléchir à l'occasion de ce 100e anniversaire? Moi, c'est ça qui m'inquiète, si vous voulez, parce que on peut bien sûr continuer à faire ce qu'on a toujours fait, c'est-à-dire célébrer la bravoure de nos hommes tombés au combat, etc. Ce récit-là, il a 100 ans. Quand Jospin, à la fin des années 90, a essayé de faire une place à ceux qui n'étaient pas justement dans le souvenir de la gloire et de la fureur, les mutins de 17, on l'a accusé de néo-révisionnisme. Je ne sais pas à quoi on a envie de réfléchir. Est-ce qu'on a envie de réfléchir? C'est la première question. La guerre de 14, ça a été la découverte de la mort de masse. De la mort de masse. Et il a fallu, après 10 millions de morts, il a fallu essayer d'habiller de symboles et de sens cette chose qui risquait, aux yeux de tous, de n'en avoir aucun. Et donc on a déployé des dépenses, on a, on a, on a consacré des dépenses symboliques absolument invraisemblables à donner du sens à ce qui s'était passé et ce qui ressemblait fort tout de même, vu de loin, et c'est à ça qu'il faudrait réfléchir, à un grand suicide collectif des puissances européennes. C'était ça la Première Guerre mondiale. Bon. Et au lieu de ça, la France s'est échinée à interdire les bruits dissonants. On a interdit pendant 20 ans les Sentiers de la Gloire de Stanley Kubrick. On a interdit pendant plus de 50 ans la chanson de Crown. On a préféré la Marseillaise, c'est très bien, il fallait bien sûr, mais la chanson de Crown aussi à sa place. Et donc j'aimerais qu'on réfléchisse vraiment à ce qu'a été... Vous savez, le grand historien allemand, juif, exilé, Ernst Kantorowicz, avait consacré un très bel article à cette idée de mourir pour la patrie. Et il disait à la fin de cet article, il faut donner du sens à la mort au combat, sinon elle passera pour un meurtre de sang-froid et son souvenir... pour, je cite, « un accident de la circulation politique un jour de fête légale ». Alors il faut donner du sens, mais je crois que ce à quoi il faudrait réfléchir aujourd'hui, et j'espère que ce sera l'occasion de le faire, c'est comment on en est arrivé à ce grand suicide collectif des puissances européennes entre 1914 et 1918.
François-Xavier Bellamy, ce sont en effet d'abord ces enjeux mémoriaux qu'on va entendre dans les jours à venir, ou c'est la dimension politique de cette itinérance présidentielle ?
Non, j'espère que ce sont les enjeux de mémoire, effectivement, qui sont décisifs. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, l'initiative qu'a prise Emmanuel Macron d'aller sur les lieux, de passer du temps dans ce... Alors, le concept d'itinérance est peut-être un peu sophistiqué, mais le fait d'aller passer vraiment du temps sur ces lieux qui ont vu, effectivement, tant de sacrifices et tant de souffrances, cette idée, elle est magnifique et elle est tout à fait nécessaire, elle est parfaitement bienvenue. Il serait évidemment très dommage qu'elle soit polluée par... de la politique politicienne et qu'on en fasse l'occasion soit d'une polémique malvenue, soit à l'inverse d'une forme de tentative de récupération pour tenter de grappiller quelques points pour l'image du président. Ça n'est pas du tout l'enjeu. Nous sommes là à l'échelle des siècles et il faut tenter de prendre un peu de hauteur. Ce qui est vrai, c'est, je reconnais dans ce que dit Thierry Pech, la nécessité de tenter de comprendre et de faire quelque chose de cet événement inouï qui a vu un Français sur 10... donner sa vie, mourir dans cet épisode effroyable. En même temps, moi, je suis frappé, j'ai pas tout à fait le même sentiment que vous. Moi, ce qui me frappe beaucoup, je le dis aussi comme enseignant, c'est de voir combien aujourd'hui, nous ne savons plus penser la guerre de 14 que comme une horrible boucherie, c'est l'expression qui est souvent employée, ce qui me paraît être aussi une forme de violence paradoxale faite à l'endroit des poilus. Bien sûr, il y a là-dedans quelque chose d'absurde et de terrifiant, et effectivement, une forme de suicide européen totalement incompréhensible avec le recul. Mais il ne faut pas oublier malgré tout que ceux qui sont morts ne sont pas, comme le veut l'expression trop souvent employée aujourd'hui, ne sont pas morts pour rien. Ils avaient au cœur le désir de protéger leur pays, le désir de garantir la liberté de la France. Ils avaient aussi le souhait de retrouver des Français qui avaient été annexés à un autre pays à la faveur d'une guerre précédente. Et tout cela faisait partie de leur élan, de ce qui donnait sens aussi à leur présence au front. Et il ne faudrait pas l'oublier trop vite, parce que je crois que si on en venait uniquement à... Je le vois, je le dis, dans l'éducation nationale aujourd'hui, il y a effectivement le sentiment de cette absurdité qui nous pousse beaucoup à défaire ce qu'il peut y avoir d'exaltation patriotique, et en un sens c'est nécessaire, mais qui ne doit pas non plus nous faire commettre une forme de violence en retour, qui serait une autre injustice, qui consisterait à dire que ces soldats, qui n'étaient pas des civils qu'on a armés, et qui se sont engagés jusqu'à donner leur vie, eh bien ces soldats n'étaient pas seulement des victimes, ils étaient aussi des Français qui avaient le sentiment d'aller au bout d'un engagement.
Elisabeth Roudinesco, c'est opportun de la part de ce président-là de célébrer, comme il va le faire, ce centenaire du 11 novembre, c'est-à-dire avec une dimension mémorielle, mais aussi politique, et j'allais dire même géopolitique.
Je pense qu'il faut parler de commémoration plutôt que de célébration, parce qu'on célèbre, on commémore la pire des guerres. Mon père a fait la guerre de 14. Il se trouve que j'en ai entendu parler directement dans mon enfance, puisqu'il était très jeune. Et je dirais qu'on commémore la paix pour cette guerre la plus atroce, puisque précisément, c'est la guerre des nations contre les nations qui a détruit l'Europe. Il faut lire aussi Stefan Zweig, le monde d'hier, qui raconte très bien... Donc je crois qu'il faut célébrer la réconciliation franco-allemande. Voilà. Ça n'a rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale, où là, tous les alliés y compris l'Allemagne d'ailleurs d'aujourd'hui, on célèbre la victoire contre le nazisme. Et je crois qu'il ne faut pas confondre l'Allemagne de cette époque avec ce qu'a été le nazisme, qui a d'ailleurs détruit l'Allemagne en même temps que toute l'Europe. Donc je reste, moi, attachée à cette réconciliation. Par rapport à ce que dit Thierry, quand même aujourd'hui, on connaît bien la guerre de 14. Les Sentiers de la Gloire sont autorisés. Je rappelle quand même deux très beaux films, moi, qui m'ont marqué. La Grande Illusion, qui est quand même une réflexion admirable sur la caractéristique de cette guerre, puisque les personnages s'entendent en fonction de leur classe sociale. Et puis Capitaine Conan, qui est magnifique, et qui montre...
Le front oriental.
Se
battait au couteau, c'était autre chose.
Oui, bien sûr, mais qui montre exactement ce que ça pouvait être. Donc aujourd'hui, je crois qu'on censure plus. Je crois pas qu'on ignore qu'il y a eu des aspects héroïques des deux côtés dans cette guerre-là. Mais l'absurdité de cette guerre doit nous faire réfléchir. Pourquoi ? Parce que c'est une guerre. C'est le nationalisme, et c'est évidemment la grande bourgeoisie de la belle époque, magnifique, mais qui avait oublié, qui s'est pas rendu compte que ça allait arriver. Donc commémoration et franco-allemande, naturellement, avec tous les peuples.
Et ça commence dès ce soir avec cette rencontre à Strasbourg entre Emmanuel Macron et son homologue allemand, avant l'image de Rotonde avec la chancelière Angela Merkel. Il y a une mise en scène inédite, ou une manière de commémorer inédite, cette année, telle qu'elle a été conçue, Dominique Reynier, par l'Élysée, par le président Macron. Reste à savoir comment cette mise en scène de la commémoration va être perçue ou reçue par les Français. D'après vous, que vont-ils retenir davantage ? Est-ce que ce sera en effet la dimension mémorielle de cette commémoration, sa dimension politique ou sa dimension géopolitique avec ce grand forum de la paix? Vous parliez de la paix, Elisabeth Roudinesco, ce grand forum de la paix qui est inédit lui aussi et qui aura lieu dimanche prochain.
Je ne sais pas. Ce que je ressens, c'est que je retrouve d'ailleurs dans l'échange que nous avons ce matin, c'est qu'il y a un manque, et ce manque nous empêchera, tant qu'il sera, si je puis dire, existant, nous empêchera de vraiment saisir ce qui s'est passé, ce qui s'est terminé il y a maintenant un siècle. Il y a quelque chose qui, moi, me mettrait mal à l'aise, c'est de voir des chefs d'État et de gouvernement. Tout ça est très bien, ça va de soi. Hein. Mais laissons les femmes et les hommes qui sont en charge aujourd'hui. Ce sont des États, ce sont des gouvernements qui organisent des réconciliations, des mises en scène de réconciliation, des mises en scène du souvenir. En 1914, quelle qu'ait été la forme du régime, tous ont décidé la guerre. Cette espèce de d'insensibilité de la décision d'aller à la guerre, à la forme du régime, république, monarchie tsariste, monarchie parlementaire, empire, moi m'interroge sur l'entité qui a décidé cela, et j'y vois la figure de l'État et dans sa prétention absolument terrible à la souveraineté jusqu'à ce massacre de millions de jeunes gens. Et ce sont au fond ces mêmes entités qui aujourd'hui mettent en scène des réconciliations. Mais jamais nous n'avons été fâchés entre nations. Ce sont des constructions d'États. Les nations ne se sont pas jetées les unes contre les autres. Ce sont les États qui ont jeté leurs peuples les uns contre les autres. Ils n'étaient pas destinés à cela. Ils n'avaient pas le goût de cela. On a fabriqué cela de manière tout à fait appliquée, tout à fait systématique. Et ce procès-là, il n'est jamais fait. Tout se passe comme si des passions avaient soudainement embrasé des multitudes pour les amener à s'entretuer. Ça n'est pas du tout ce qui s'est passé. Ce sont des États fous de leur souveraineté, qui sont les protecteurs de ces peuples, qui les ont jetés les uns contre les autres. Et nous n'arrivons pas à faire le procès de cela. Et au fond, tant que les États et les chefs de gouvernement, année après année, mettront en scène la réconciliation qui n'est pas la notion pertinente. C'est leur faute, pas eux bien sûr aujourd'hui. Ceux qui n'ont pas été à la hauteur de leur charge en 1914, et tous, hein, aucun n'a été à la hauteur de sa charge, c'est ça la grande question. Et cette guerre est d'autant plus à interroger sur ses causes profondes que, dans ses conséquences, elle est terrible. Je ne crois pas qu'ils soient morts pour rien, c'est très cruel d'ajouter ça en effet à leur mort atroce, mais malgré tout, c'était une guerre inutile.
qui a provoqué une guerre à laquelle il était impossible, s'il était impossible de ne pas participer. Soit parce qu'il fallait combattre le nazisme, soit parce que le nazisme faisait de vous, quel que soit votre âge, quel que soit votre cantonnement, si je puis dire, une personne à persécuter. Cette guerre en a enfanté une autre qui ne pouvait pas ensuite vous laisser de côté. Et c'est une grande faute qui a été politique, immense, qui a été commise. Bertrand Russell a tenté de la dénoncer, cette guerre. Ça lui a valu quelques mois de prison, dans une espèce d'impossibilité d'être entendu. Mais cette 14-18, hein, à peu près, 14-16, mais cette impossibilité aujourd'hui encore, un siècle après, de s'interroger sur la responsabilité des États en tant que puissance qui prétend follement à la souveraineté, me paraît être vraiment une grande question. Je voudrais juste ajouter que c'est ça aussi l'Europe aujourd'hui. C'est pas simplement réconcilier des peuples. Nous n'étions pas à ce moment-là fâchés. C'est aussi un pouvoir limité. Ces États ont trop de pouvoir et ils en font parfois un usage épouvantable.
Alors, ce qui m'amène à vous ramener, j'insiste, au temps présent, ce sont d'ailleurs des enjeux qui n'échappent pas au président de la République. Peut-être avez-vous lu l'entretien qu'il a accordé cette semaine au journal Ouest France, où il reprend cette expression de lèpre nationaliste et où lui-même dit qu'il voit dans les temps présents des similitudes qui le frappent entre ce qui s'est passé après 1918 et jusqu'à la crise de 1929.
Je pense qu'il a raison d'attirer l'attention sur les analogies. Alors, les analogies ne font pas des identités, mais sur les analogies entre ce qui s'est passé en Europe dans les années 20 et 30 et ce qui peut être en train de s'enclencher aujourd'hui. Et pour poursuivre ce que dit Dominique, et avec quoi je suis en très large accord, je crois que 14, c'est l'aboutissement à l'ère industrielle du vieux monde westphalien, du monde des affrontements de puissance nationale, quoi qu'en pensent les sociétés, en dépit des sociétés, par-dessus les sociétés, et même si certaines sociétés, depuis 70, avaient, avec application, nourri un désir de revanche dans les générations d'hommes nés après le premier affrontement en 1870. Donc, ce vieux monde westphalien, il est pas mort. Il est même en train de donner des signes de reviviscence. Et c'est pour ça que je pense que cette commémoration devrait être l'occasion de réfléchir à ça. 14, c'est pas un souvenir lointain. C'est en train de sortir de la mémoire des vivants pour entrer dans l'histoire, puisqu'il n'y a plus de témoignages d'expérience sur 14. Voilà, les contemporains sont morts. Mais il faut que ce travail, justement, qui nous revient à nous, qui n'avons pas connu cet événement, nous fasse regarder en face le risque du retour du westphalien, du retour des rapports de puissance, en dépit de tout ce qu'on a voulu construire sur l'Europe. Pour revenir d'un mot sur ce qu'a dit François-Xavier, bien sûr que c'est atroce d'ajouter l'absurdité au sacrifice. Et c'est d'ailleurs ce que faisaient les militants communistes après 14 avec les anciens combattants. Ils leur disaient, vous avez été les victimes de la boucherie du grand capital, tout ça n'a aucun sens, etc. C'est vrai. Maintenant qu'ils sont morts, tout de même, affrontons l'absurdité de ce combat. Affrontons-le. Voilà, paix à leur âme, mais affrontons l'absurdité de ce combat.
Au fond, il y a une belle unité dans ce studio ce matin pour dire qu'il faut réveiller une mémoire collective. Est-ce que cette itinérance mémorielle et politique, je le redis, Elisabeth Roudinesco, est la bonne manière de faire?
Je ne suis pas contre. Voilà. Peut-être que, de toute façon, tout président se sert du passé pour le présent, c'est inévitable.
Est-ce que ce président-là le fait davantage que les autres?
Oui, mais c'est le centenaire. Oui, bien sûr. Ça permet, de toute façon, toutes les commémorations permettent toujours des réflexions, des publications. On la connaît bien aujourd'hui, la guerre de 14. Il y a beaucoup de livres sur cette question. Est-ce que ça ressemble, comme le dit le président Macron, aux années 20-30? Moi, je dirais qu'en même temps, ça ressemble à 1914. Parce que j'insiste, vous avez raison de dire que ce sont les États qui ont précipité les peuples les uns contre les autres, mais ils ont joué sur le nationalisme. Souvenez-vous, la mobilisation, c'était contre les Boches. Pardon de faire souvenir personnel, mais je me souviens de mon père qui disait « on va casser du Bosch ». C'est-à-dire que ça marchait. Alors, ça marchait pas, évidemment, dans les classes beaucoup plus cultivées. Ce patriotisme ne marchait pas chez les intellectuels qui étaient déjà européens. C'était la fin du vieux monde était une catastrophe. Il y a qu'à lire tout ce qu'on en dit. Par exemple, pour quelqu'un comme Freud, c'est la catastrophe, la guerre de 14. C'est déjà un mouvement européen. Donc, si vous prenez, il se retrouve dans le camp adverse de ses propres disciples anglais ou français. Je prends cet exemple, mais c'est arrivé à tout le monde. Donc, quand même, les nationalismes, ça joue. Je trouve que notre époque ressemble plus à ça. Ça n'empêche pas qu'il y a des phénomènes qui ressemblent aussi aux années 30. Mais moi, je suis favorable aux commémorations d'une manière générale.
Il y aura ce discours, bien sûr, qui sera tenu sur la lèpre nationaliste et certainement le terme sera repris par le président Macron, Dominique Reynier. En invitant des chefs d'État, des chefs de gouvernement, dont on sait très bien ce qu'on pense, Emmanuel Macron, à savoir des leaders qui ne sont pas réellement ni pour le multilatéralisme, ni pour la poursuite de l'aventure européenne, Vladimir Poutine notamment, qui sera présent à Paris. Dans ce décalage-là, qu'est-ce qui va se jouer? Que recherche vraiment l'Élysée comme effet?
En tout cas, moi j'espère que l'effet recherché et d'aider les Européens à comprendre que sans leur union, ils ne sont capables d'aucune forme d'autorité. Et que dans ce monde qui, en effet, redevient très dangereux, il faut que les Européens à la fois réfléchissent aux relations que nous avons les uns avec les autres, mais aussi à la manière de faire autorité dans le monde. Parce que là, moi, j'ai une analyse différente de celle que fait le président Macron sur le contexte d'aujourd'hui. Je ne pense pas qu'il y a en Europe un retour du nationalisme. Je ne le pense pas du tout. Et je pense que ce malentendu peut avoir des conséquences tout à fait terribles. Il y a en Europe aujourd'hui une demande de protection de la part des Européens. Ils attendent une puissance publique qui les protège et qui les aide à se projeter dans le monde d'aujourd'hui. Mais cette façon de poser le problème fait courir le risque, moi je le crois en tout cas, de ne pas répondre à la question posée. Et finalement, parce qu'il y a bien effectivement des boutiques nationalistes qui ont ouvert à nouveau leur...
Chez Matteo Salvini, chez Viktor Orban, ben oui, vous n'entendez pas cette même musique, j'ouvre des guillemets, nationaliste-là?
Orban a un discours qui défend une forme de société. Le plus grand clivage avec Orban, c'est son rapport au multiculturalisme. Mais sur le rapport à l'Europe, il n'en appelle pas. Il a fait un discours étonnant, Orban, par exemple, quand on l'écoute et quand on le lit, c'est parfois étonnant. Il dit « Que croyez-vous que j'ignore à ce point ce que c'est que la Hongrie ? Je peux aligner, dit-il, 20 000 soldats seulement. J'ai besoin de l'Europe, sinon je n'existe plus. » Ce n'est pas exactement un discours nationaliste, si vous voulez. Donc, il faudrait rentrer dans cette subtilité. Probablement qu'on aura l'occasion d'en reparler ici ou ailleurs, j'imagine, Émilie Aubry, mais je pense que là, on ne doit pas commettre cette erreur. Et c'est très bien que le président Macron organise ses commémorations avec ses invités que vous avez cités, parce qu'il faut dire aux Européens, et ça on ne le sait pas aujourd'hui, que nous avons besoin de faire autorité pour nous et face au monde. Et que cela, on ne le fera pas avec nos petites nations, désormais très fragiles. Aucune, même la France ou l'Allemagne, ne peut rivaliser dans ce monde. Et nous devons être réunis de manière très, 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 très forte et très étroite.
Je vous ramène maintenant clairement à la politique pour continuer sur cette problématique, parce qu'elle sera évidemment très présente ces prochains jours. C'est d'ailleurs totalement assumé par l'exécutif, puisque François-Xavier Bellamy, Emmanuel Macron, a l'intention à la fois de coupler un déplacement sur des sites mémoriels, mais pour aborder les problématiques contemporaines, actuelles, des régions qu'il va visiter. Ce matin, dans le journal du dimanche, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France, affirme qu'il y a quelque chose de cassé entre le président et les Français. Donc on voit bien que la politique reprend déjà ses droits dans cette affaire. Est-ce qu'en effet, on répare un lien, on fait unité par le biais de la commémoration?
Ce qu'il faudrait, c'est que ces commémorations, qui encore une fois sont la politique qui est à l'échelle des actions immédiates de quelques mois ou de quelques années, d'un mandat de 5 ans, mais là nous parlons de quelque chose qui est à l'échelle d'un siècle ou de la responsabilité des États, comme le rappelait Dominique Reynier devant l'histoire. Et d'ailleurs, ce qui nous menace beaucoup dans l'hystérisation du débat public aujourd'hui, c'est ce qui est directement menacé, c'est notre capacité à être conscient de notre unité malgré tous les clivages et à vivre cette unité profondément avec la hauteur nécessaire dans des moments comme celui-ci. C'est la raison pour laquelle j'espère vraiment qu'Emmanuel Macron n'utilisera pas ces commémorations dans une perspective de politique politicienne. Ce serait tellement catastrophique. Alors vous dites que c'est impossible, j'espère que non, parce que ce serait...
Murmure qu'elle pense que c'est impossible.
Pardon.
Ce, ce que je crois, c'est qu'effectivement, elles peuvent être l'occasion de discuter sur des enjeux d'actualité. Et tout à l'heure, Dominique Régnier évoquait la question de la souveraineté. Je crois que c'est effectivement une question fondamentale. Ce qui m'étonne dans ce que vous disiez à l'instant, c'est le sentiment que les États avaient par leur seule prétention à la souveraineté, cette folle prétention que vous évoquiez, je reprends vos termes, provoquer cette guerre. Mais je crois que la guerre n'est pas un phénomène nouveau. Elle ne date pas d'ailleurs de l'apparition des États-nations. La guerre est un phénomène qui a traversé toute l'histoire humaine. Elle a atteint son point de barbarie absolue avec cette Première Guerre mondiale, évidemment, et cette Deuxième Guerre mondiale aussi. Mais la guerre en tant que telle n'est pas un phénomène nouveau. Elle dit aussi, de façon tragique, le désir des hommes de pouvoir maîtriser leur destin, de n'être pas soumis à l'autorité d'un autre, de pouvoir collectivement, politiquement construire les conditions d'une décision partagée qui soit la leur et non pas celle d'un autre. Et je crois qu'il ne faudrait pas mépriser cette aspiration à la souveraineté qui n'est pas celle des États mais qui est celle des hommes et qui est une aspiration éternelle. Plutôt la mort que la servitude, c'est ce que disaient déjà les Grecs avec Périclès, hein. C'est quand même pas nouveau et c'est aussi un cri qui nous a fondés. Alors je crois qu'il faut trouver les moyens d'éviter évidemment la mort, et de façon absolue refuser toute idéalisation de la guerre qui en ferait le lieu où se réalise la cohésion nationale. Ce serait évidemment la catastrophe que sans doute nos pays n'ont pas su éviter dans la construction de ces nationalismes guerriers dans la période entre 1870 et 1914, mais malgré tout, nous ne pouvons pas faire de la prétention à la souveraineté une folie sans risquer, je crois, le choc en retour de ces peuples qui continuent de dire qu'ils veulent maîtriser leur destin. Ils ont besoin de protection, mais ils ont aussi besoin, pas seulement de protection, du sentiment qu'ils ne sont pas totalement dépendants de décisions sur lesquelles ils n'ont plus aucune prise. Et c'est peut-être ce qui se joue dans le débat européen, bien sûr, qui commence aujourd'hui.
Thierry Pêche, vous voulez répondre rapidement.
C'est pas la quête de souveraineté qui fait 14. C'est pas la prétention à la souveraineté, c'est la prétention à la puissance.
Ah, si, bien sûr, c'est aussi la prétention à la souveraineté. Alors, qu'est-ce que c'est que l'Alsace-Lorraine, sinon le sentiment que nous avons été...
C'est le sentiment d'une forme de...
Mais c'est pas comme ça que commence 14. C'est pas comme ça. Ça, c'est comme ça que finit 70. Mais c'est pas comme ça que commence 14. 14, c'est vraiment l'enchaînement des logiques de puissance, indépendamment de ce qui se passe dans les sociétés européennes. Je crois qu'il faut quand même le rappeler. Ce que vous dites serait vrai pour analyser ce qui s'est passé dans l'éclatement des empires juste après. Et un peu... avec la montée des nationalismes dans l'Empire ottoman, bien avant, depuis 1880-1870. La création ex nihilo de la Bulgarie, la création ex nihilo, et puis les transferts de population qui vont être décidés ensuite par le traité de Lausanne, après qu'on aura défait le traité de Sèvres. On dit, voilà, les musulmans des Balkans vont rentrer en Turquie. Et il y a des centaines de milliers de gens qui vont traverser la mer, et réciproquement, les Grecs, les Mikrasiates vont... Ça, oui, vous avez raison, c'est les effets toxiques de la prétention à la souveraineté nationale et la montée du nationalisme. Mais là, 14, c'est vraiment l'affrontement des puissances et c'est ça qui ne va pas, c'est la fin du monde westphalien. Enfin, il n'est pas fini puisqu'il va continuer encore des décennies dans le XXe siècle. Mais il atteint sa limite et son aporie. Je crois que c'est ça qu'il faut... J'ai là, mais je n'ai pas le temps de le lire, un extrait des conséquences économiques de la paix de Keynes en 1919. Keynes, bon, Keynes dit, voilà... si on continue à penser que le malheur d'un État laissera ses voisins indemnes, on va à une catastrophe bien pire que celle que nous venons de vivre. Il l'écrit en 1919. Encore une fois, je n'ai pas le temps, mais peut-être on pourrait le mettre sur le site si
mais
vous êtes d'accord.
Nous le ferons, Thierry Pêche, nous le ferons. Puisque vous parlez de Keynes et des enjeux économiques et politiques, j'y reviens. J'aimerais qu'on conclue notre première partie sur ces aspects-là des choses. Vous sembliez sceptique tout à l'heure, Elisabeth Roudinesco, sur le fait que l'Élysée pouvait essayer de coupler les deux. Néanmoins, le chef de l'État a inclus dans son parcours des visites systématiques sur le thème du développement économique, par exemple à Pont-à-Mousson, Meurthe-et-Moselle le 5 novembre prochain, sur les personnes âgées, sur l'insertion à l'occasion d'un déplacement à Lens dans le Pas-de-Calais. Ça, ce sera le 9 novembre prochain. Donc ça fait clairement partie de la volonté et de la démarche élyséenne dans cette histoire-là. On ne peut pas ne pas en parler.
Je pense que les politiques ne sont pas les historiens. Ce n'est pas des intellectuels qui réfléchissent à une situation. Donc, tous les politiques utilisent les commémorations pour dire autre chose. Moi, ça me paraît inévitable. Je ne crois pas qu'on puisse le lui reprocher. Ils ont tous fait ça. Et puis, ça, c'est la politique. C'est aux historiens de parler des choses mémorielles.
Ce président-là le fait plus que d'autres, peut-être, comme s'il pensait que le passé est une manière aussi de refaire unité dans un pays qui en manque.
On a un président cultivé. Tout de même, il a renoué avec, sur ce plan-là, avec ce qu'était Mitterrand ou De Gaulle. Il est cultivé. Alors, après, on peut ne pas être d'accord, mais enfin, la culture, il est habité par la culture, ce qui n'était pas du tout le cas du président Sarkozy, par exemple. Donc, on peut pas, au moins, il y a ça. Alors, que bien entendu, il en profite pour faire de la politique, ça me paraît parfaitement logique. Mais à nous, de commémorer. Alors, juste un point que vous aviez évoqué, c'est vrai que c'est la défaite fondamentale des empires centraux. Derrière la guerre de 14 et cette précipitation nationaliste, c'était la fin des empires centraux, c'est les dernières étapes de la fin de la féodalité en Europe. Fin de l'Autriche-Hongrie, redistribution de tous les peuples, donc, catastrophe des traités de Versailles et des autres, mais il y avait aussi quelque chose d'inéluctable derrière ça, c'est important.
Pour terminer sur les enjeux économiques et politiques de cette semaine que nous allons vivre, est-ce qu'il y a vraiment un désir d'unité finalement chez les Français aujourd'hui? Ce désir d'unité que le président Macron tente par tous les moyens de réveiller avec le programme des jours à venir?
Oui, vous avez raison, Émilie Oubry, c'est une question et c'est probablement... Le centenaire s'impose au président en place, évidemment, qu'il aime ou pas l'histoire. Mais on a bien senti, et tout à l'heure dans votre reportage, les protestations sur le prix du carburant, etc., qui venaient se mêler. C'est frappant parce qu'au fond, c'est comme si même cette grande guerre, nous ne sommes pas aujourd'hui capables de parler d'autre chose que de cette guerre. C'est frappant à quel point elle est importante, en tout cas pour nous. Eh bien, même si c'est, comme cette grande guerre était en train de ne plus être aussi importante pour une partie des Français, comme si cette France-là était en train de se défaire, comme si nous avions le sentiment que quelque chose était en train d'aller à sa fin. Et c'est peut-être pour ça aussi que ce président, qui ressentirait cela aussi, aurait cette idée de s'engager davantage dans des commémorations, c'est faire communauté en se référant au passé, parce que cette communauté, elle est en train, un peu comme son passé, de s'effilocher. Et c'était très frappé, moi, tout à l'heure, par l'extraordinaire, l'abîme qui séparait l'événement à la fois majestueux et très triste de ce centenaire, et puis cette querelle sur qui ne vaut pas rien, mais enfin, sur le prix de l'essence, enfin, là où tous ces massacres ont eu lieu.
Ce qui s'appelle un décalage abyssal.
Ah oui, c'est très impressionnant. Oui, et là, je comprends que ça donne ce sentiment que quelque chose disparaît, oui.
Néanmoins, il existe ce décalage abyssal et il devra l'affronter, le chef de l'État, ces prochains jours.
Mais c'est aussi sa responsabilité, vraiment, j'y reviens. Et je trouve que l'utilisation qui est faite de la mémoire et de l'histoire... Par le président de la République, il n'est pas chef de parti, il est le chef de l'État. Et donc, effectivement, il fait de la politique, mais il y a quelque chose qui devrait être fait au sens le plus noble du terme pour restaurer l'unité qui est en train de se déliter. Et le malheur, c'est que quand le parti La République En Marche publie un tweet en disant que la manifestation contre les prix du carburant s'apparente à du fascisme, c'est-à-dire mais qu'il y a une réaction populiste qui rappelle fasciste, les années nauséabondes des années 30, il y a quelque chose, effectivement, qui nous empêche de faire unité ensemble. Parce que vous pouvez difficilement dire que tous ceux qui ne pensent pas comme vous excitent la lèpre nationaliste et ensuite demander aux gens de se montrer unis autour de la mémoire d'une guerre.
Ouais.
Thierry Pêche.
Non, un mot sur cette histoire de carburant, elle n'est pas du tout méprisable. C'est normal que le débat démocratique se poursuive et on ne peut pas demander à un sujet d'en écraser un autre. J'ai pas de problème avec ça. Par contre, j'ai certains problèmes avec la façon dont le sujet carburant est traité par les organisateurs des manifestations. C'est-à-dire cette idée que la fiscalité serait la cause de tout est absurde. Il faut quand même le dire. C'est le premier point. C'est-à-dire ce qui est la cause de la montée des prix du carburant, c'est un peu la fiscalité, beaucoup le prix du baril, pas mal le taux de change. Je ne vais pas faire un cours d'économie là-dessus, mais là, on est en train de créer un vrai fake news, une vraie fake news de plus, si vous voulez. Donc ça, on ne peut pas le laisser faire non plus. Et puis par ailleurs...
C'est quand même indéniable que le gouvernement a choisi à faire un arbitrage qui est tout à fait explicite pour augmenter la fiscalité du diesel et de l'essence.
Oui, celui-ci et le précédent aussi. Et c'est, je rappelle quand même l'intérêt de nos enfants, des vôtres, des miens, dans les grandes villes, c'est d'arrêter de respirer autant de particules fines. À la fin, ça fait des morts. Il y a de la surmortalité liée au diesel. On ne peut pas faire comme si c'était juste un problème de pouvoir d'achat. Alors après, à la fin, il y a un autre problème, c'est celui des gens qui ont d'autres choix que d'utiliser leur voiture, qui ont une vieille voiture, parfois au gazole, qui ne peuvent pas en changer et qui vivent loin des villes. Bon. Et là, effectivement, il faut mettre en place des politiques qui simplifient la vie pour ces gens-là, pour ce public-là. Mais arrêtons de nous raconter une histoire où on fait un pas en avant puis un pas en arrière et à la fin, on fait du surplace parce que effectivement, il faut sortir du diesel parce que le diesel, c'est mauvais pour la santé de tout le monde.
Pour conclure sur cette notion d'unité, on sait que dans cette semaine élyséenne, il y a l'idée de renforcer la dimension présidentielle d'Emmanuel Macron, de limiter les risques d'accrochage et notamment sur cette question des carburants, en clair, de tenter d'incarner un moment d'unité nationale. Est-ce que c'est le genre de raisonnement qui fonctionne très bien dans la tête d'un conseiller élyséen qui conçoit ce genre de plan de bataille et qui forcément ne peut s'avérer que déceptif une fois qu'il est mis en œuvre, Elisabeth Roudinesco?
Les politiques, c'est les politiques. C'est pas à eux de faire ça. Ils ont une visée d'utiliser le mémorial, j'ai déjà dit, pour autre chose. Maintenant, ça me paraît parfaitement logique. Mais là, nous, on est là pour réfléchir autrement.
Est-ce que la France a envie ou besoin d'unité nationale? Est-ce qu'elle est... Il y a ce souhait de retrouver ce genre de moment-là?
Moi, je crois que la question de savoir ce qui nous permettra à nouveau de faire communauté est une question centrale et qui doit être articulée avec cet enchâssement, avec la globalisation et notre appartenance continentale. C'est une des grandes questions à poser aujourd'hui et surtout à résoudre.
Un mot de conclusion sur cette première partie, François-Xavier Bellamy.
Ouais, comme Dominique Rignier, je crois qu'on en est tous convaincus. Devant ce qu'on appelle la montée des populismes, je vois surtout la crispation de plus en plus grande qui gagne notre société. La politique, c'est un miracle fragile qui consiste à tenter de faire en sorte que nos désaccords ne se manifestent pas sous la forme de la violence, mais par l'expression d'un dialogue. Et ce dialogue-là, nous en sommes tous responsables. Et je crois que c'est très important, en effet, dans ce moment de mémoire, que nous puissions retrouver la capacité de continuer à vivre nos désaccords, et ils sont parfaitement normaux, mais de les vivre d'une manière qui soit effectivement articulée, civilisée et paisible.
Merci, on va à présent laisser le président français à son itinérance mémorielle et très politique, et on va aller prendre des nouvelles des Brésiliens 7 jours après le grand triomphe électoral de Jair Bolsonaro.
France Culture, l'esprit public, Émilie Aubry.
Il s'appelle Claudio Couto, il est professeur de sciences politiques à Sao Paulo. Claudio Couto a bien analysé l'homme qui vient d'être élu président du Brésil et sera investi le 1er janvier prochain. Il voit en Jair Bolsonaro un leader qui au fond aurait intégré tous les ingrédients du populisme. Jouer la carte militariste comme Chavez en son temps au Venezuela, jouer la carte du fondamentalisme religieux comme Erdogan en Turquie, en version catholique bien sûr, faire de l'anti-intellectualisme comme le Hongrois Viktor Orban, promettre de contrôler les institutions judiciaires comme le Polonais Morawiecki ou encore annoncer la toute-puissance policière comme Duterte aux Philippines. Bref, pour ce politologue brésilien, Bolsonaro serait une sorte de pot-pourri des populismes du monde entier. Mais pouvait-on s'en tenir là? S'en tenir à l'idée implicite que la résurgence mondiale du national-populisme serait un phénomène d'époque, derrière lequel les spécificités locales liées aux histoires et aux identités de chaque territoire seraient finalement secondaires. Bref, comment faire la part des choses entre ce qui relèverait de mécanismes nationaux, voire régionaux, et ce qui relèverait d'une époque, pour ne pas dire d'une règle, datant de l'Antiquité, à savoir que l'histoire de la démocratie avait toujours connu ses flux et ses reflux.
Je suis favorable à la torture, vous le savez. Nous les Brésiliens, nous n'aimons pas les homosexuels. Ni au Brésil, nous ne sommes pas préparés à ça. Aucun père ne peut être fier d'avoir un fils gay. Quelle fierté! Organiser une fête parce qu'il y a un fils gay dans la famille? Quand ton fils commence à devenir un peu gay, frappe-le, et alors il va changer de comportement.
Et si votre fils tombait amoureux d'une femme noire, comment réagiriez-vous?
Je ne vais pas discuter promiscuité avec qui que ce soit. Il n'y a aucun risque que cela arrive car mon fils a été bien éduqué.
Voilà une sorte justement de pot pourri des déclarations de Jair Bolsonaro à l'occasion de sa campagne électorale. Dominique Rignier, je citais tout à l'heure Claudio Couto, professeur de sciences politiques à Sao Paulo. Le Dominique Rignier brésilien, c'est un spécialiste lui aussi des populismes. Est-ce que vous aussi, vous voyez le futur président brésilien comme une sorte de résumé, de concentration des populismes du moment?
Le populisme est un phénomène qui apparaît dans ce type d'époque. Et donc c'est une époque qui nous est commune, une époque de grands bouleversements, de grandes transformations, avec beaucoup de phénomènes de déclassement ou de grandes incertitudes sur le futur, qui ne touchent pas seulement les classes populaires et laborieuses, mais aussi les classes moyennes mondiales, et au Brésil aussi, bien sûr. Et c'est ce point de départ, parce qu'au fond, Bolsonaro, dont on fait le portrait, on l'a écouté, donc c'est assez clair, au fond, il n'y a pas de dissimulation, ni d'analyse sophistiquée à faire après de tels propos. Mais il est le résultat de quelque chose, comme ailleurs. Ailleurs, on est toujours là devant des résultats. Et il est le résultat pour le Brésil d'un triple échec colossal, accablant, qui est un échec sur le plan économique. Le Brésil prometteur, le Brésil grand pays émergent, qui tout d'un coup s'est affalé et a retombé, entraînant dans sa chute et plus bas encore les classes moyennes qui avaient espéré, en écrasant d'ailleurs les plus pauvres. C'est un échec sur le plan de la morale publique, une corruption endémique, et même Lula est en prison, et il était en prison pendant cette élection, donc c'est dire à quel point les Brésiliens sont traumatisés. On ne peut pas être élu au second tour avec 55% s'il n'y a pas beaucoup d'électeurs de Lula dans vos électeurs. Et puis, on le sait, c'est un grand sujet de sécurité. Je crois qu'il y a eu près de 70 000 personnes assassinées l'année dernière au Brésil. C'est l'un des pays les plus dangereux du monde. Hein. Qui y est allé a remarqué à quel point on lui faisait sans cesse des recommandations de sécurité et à quel point les Brésiliens eux-mêmes n'arrivent plus à vivre, et surtout les plus pauvres, bien sûr. Hein. On ne sait plus. La police au Brésil, elle est régionalisée. Et dans certaines régions, ils n'ont plus d'essence, plus les moyens de faire réparer leur voiture, plus les moyens, bien sûr, ils sont ouverts à la corruption, il n'y a plus rien, vous êtes livrés à vous-même. Tout ceci, aucune personne qui connaît un tout petit peu le Brésil ne peut être surprise par ce qui vient de se passer. On a abandonné toutes ces personnes. Il y a cette opportunité qui se présente à eux. Probablement, en tout cas, c'est mon analyse, menée par des élites qui sont à peu près les mêmes et qui cherchent à conserver le pouvoir ou bien à le retrouver en utilisant cette figure qui, c'est un exploit, ne sera jamais sortie de chez elle pour la campagne électorale. C'est une campagne qui s'est faite depuis l'intérieur et depuis au fond une chaîne YouTube. Donc c'est une espèce d'appel au secours des Brésiliens. Je crains que ce soit pour eux une immense déception et que leur malheur soit plus complet bientôt.
Thierry Pêche, est-ce qu'il y a une espèce de paresse intellectuelle comme ça, décréter qu'il y a un populisme d'époque pour ne pas regarder ce qui relève systématiquement, comme a l'air de dire Dominique Régnier, de spécificité nationale? Au fond, il y avait cette attente de sécurité des Brésiliens, comme le politologue Ivan Krastai avait pu analyser qu'il y avait une panique démographique dans le vote Orban en Hongrie.
Je crois qu'il y a des points communs. Et puis, il y a des singularités, il y a les deux. Enfin, c'est une réponse de Normand que je vous fais, mais je crois que c'est important de faire la part des choses. Les points communs, c'est quand même un recul manifeste partout de toutes les tentatives d'intégration internationale. Bolsonaro incarne une autre version du recul du multilatéralisme. Le Mercosur, c'est pas ma priorité. L'ONU, je vais me retirer de la Commission des droits de l'homme. Je vais faire du bilatéral avec les États-Unis, etc. Donc, la mondialisation est passée par là et elle a généré dans beaucoup de pays, j'ai envie de dire pour plaisanter, qu'il n'y a pas qu'en Gaule qu'il y a des Gaulois réfractaires aujourd'hui. Il y en a un peu partout dans le monde. Et ça, c'est le point commun. C'est-à-dire qu'il y a des fractions entières des sociétés, pas simplement des sociétés développées, c'est vrai aussi dans les sociétés émergentes, fractions entières des sociétés qui ont envie d'autre chose. Bon, ça c'est un cadre commun. Et cette lèpre nationaliste populiste, je pense qu'il y a du nationalisme quand même là-dedans, Dominique, on pourra en reparler, c'est pas du nationalisme comme on l'a connu, mais c'est tout de même un repli sur les intérêts nationaux de court terme et souvent de courte vue. Je pense que cette dynamique-là, elle est d'autant plus rapide qu'on a affaire à des sociétés assez inégalitaires, où l'état social est assez faible. C'est le cas à 100% au Brésil. C'est le 8e PIB mondial, le Brésil. Mais c'est quasiment le record d'inégalité au monde et un record de violence sociale. Bon. Ça a progressé aux États-Unis parce que c'est aussi une société où l'état social est très faible. Ça a progressé très vite aussi au Royaume-Uni, là encore. Et on pourrait continuer. En revanche, en France, ça a été mis en échec. Il faut quand même se demander pourquoi. Sans doute que la société française est un peu moins éclatée, contrairement à ce qu'on a voulu dire, un peu moins dispersée. Après, il y a des singularités locales, tout à fait évidentes. Hein. Je veux dire, le contexte brésilien est marqué par des particularités qu'a rappelé Dominique, sur lesquelles je n'ai pas les moyens de m'étendre. Je connais mal ce pays, mais tout à fait évident qu'à la fois des circonstances, l'emprisonnement de Lula sur des bases juridiques qui continueront à être discutées et qui, semble-t-il, sont très discutables. Le niveau très élevé de corruption. Et puis le fait que ce continent accueille du populisme depuis maintenant longtemps, en réalité. On ne découvre pas le populisme avec Bolsonaro. Il y a eu un populisme indigéniste de gauche avant Bolsonaro. Bon, on peut pas dire que la conquête du pouvoir par Chavez était le triomphe de la démocratie libérale. On peut pas dire que le discours d'Evo Morales était un discours profondément libéral. Donc, ce continent est livré à ce type de débat depuis maintenant longtemps. Simplement, Bolsonaro s'en est la version de droite avec un risque de violence politique. C'est peut-être ça qui est la plus grande singularité pour moi de la situation brésilienne, un risque de violence politique qui est très élevé.
Oui, avec d'ailleurs de premières mesures annoncées cette semaine, comme si une chasse aux opposants commençait cette semaine avec la nomination du ministre de la Justice et surtout les universités qui seraient déjà dans le viseur, puisque le futur président a cité les noms de professeurs accusés de faire de la propagande en classe avec un numéro ou une hotline de dénonciation pour les élèves qui seraient mis en place dès son arrivée effective au pouvoir. Elisabeth Roudinesco, un mot sur ce retour des hommes forts au-delà de la question brésilienne. Pierre Aski a tenté de l'analyser, ce retour des hommes forts, cette semaine dans l'Observateur. Pour lui, ça survient toujours dans des pays qui ont besoin d'une revanche sur l'histoire.
Je connais bien le Brésil puisque j'y vais deux fois par an dans ces fameuses universités qui vont être visées. Mais en effet, au-delà de ce qu'on peut analyser pour chaque pays. Je vous recommande à mettre sur le site un très beau texte d'Umberto Eco dans la New York Review of Books de 1995. Et il y a un point commun, il appelait ça le ur-fascisme, c'est-à-dire fascisme éternel. Au-delà de tout ce qu'on peut dire, il y a quand même des points communs entre toutes ces formes de populisme, lui il disait fascisme. Il y a un vocabulaire commun, voilà. La pauvreté syntaxique, de cette nouvelle langue. La haine des homosexuels, des femmes, la misogynie, le culte de la vengeance viriliste par rapport à un état de société qui serait décadent. Vous avez ça chez Orban, vous avez ça évidemment chez Bolsonaro, mais partout ailleurs, que ce soit, même s'ils se ressemblent, chez Poutine, Erdogan, la haine...
Pas chez Pim Fortuyn.
Comment ?
Pas chez Pim Fortuyn, qui est l'un des inventeurs du nouveau populisme européen, qui était militant homosexuel, qui...
Mais ça n'empêche pas, vous avez des militants homosexuels qui peuvent tenir des discours fascistes.
Non,
donc
mais
là,
il n'était pas du tout de l'homosexualité, non, par ailleurs.
C'est pas ça, je parle des discours qui se ressemblent.
Des récurrences.
Voilà, des discours. Le refus, par exemple, de la modernité. Rendu responsable de... Mais bien entendu, tout ça peut être aussi des discours tenus par des femmes. Je parle des discours, et c'est important de le comprendre. Cette espèce de théorie du complot, toujours présente, de la manipulation, enfin bref, je vous renvoie à ça. Parce que ça nous permet quand même de comprendre que les problèmes ne sont pas seulement économiques. Bien sûr, les erreurs de Lula, on les connaît tous. Mais moi, je crois qu'il faut combattre absolument et radicalement, pas seulement pour le Brésil, mais c'est tous ces discours et toutes ces formes de pouvoir, tout en sachant historiquement comment c'est arrivé. Mais ça n'empêche pas qu'à un moment, il faut quand même, s'il y a un engagement politique aujourd'hui, c'est contre ça.
En même temps, François-Xavier Bellamy, depuis l'élection de ce nouveau président brésilien, on sent à la fois une tentative de trouver des points communs à ce qui serait ou ce qui relèverait d'un populisme mondial, et en même temps une sorte de très grande prudence à ne pas amalgamer des situations et des leaders qui n'ont rien à voir.
Il y a bien quelque chose que toutes les démocraties semblent en train de vivre aujourd'hui, de près ou de loin, de façon concrète ou de façon prochaine. Et c'est précisément cette crise très profonde de la démocratie. Ce que Thierry Pech disait, ce qui est très inquiétant dans la situation de Bolsonaro, c'est cet appel non dissimulé à une forme de violence politique, la menace dans les derniers jours du scrutin de faire emprisonner ses adversaires, qu'on retrouvait aussi chez Trump, hein, dans ce débat absolument incroyable où il affirmait que Hillary Clinton, s'il était élu, finirait en prison. Donc une forme de radicalisation qui fait qu'au fond la démocratie elle-même est menacée comme cette forme politique incroyablement fragile qui fait que nous vivons nos désaccords sur le mode du dialogue plutôt que de la violence. Une fois qu'on a dit ça, je crois qu'il faut prendre conscience que notre réaction devant cette situation peut ou non contribuer à cette radicalisation. Je veux dire par là que dans ce que vous disiez à l'instant, par exemple, Madame Roudinesco, je vois aussi quelque chose qui, paradoxalement, contribue à ce que vous déplorez. C'est-à-dire que lorsque nous disons tous ceux qui ne pensent pas comme nous sont nécessairement habités par une lèpre populiste, par au fond, nous pathologisons, nous psychiatrisons, nous moralisons le désaccord politique. La question qui se pose, et Dominique Régnier l'a parfaitement dit, au Brésil, c'est la question de savoir ce qu'il faut faire de ce désespoir de tant de gens très modestes abandonnés littéralement à une violence endémique. Et il ne suffira pas de jeter sur eux, comme l'avait fait Hillary Clinton, l'anathème que ce sont des gens déplorables pour qu'ils finissent par renoncer à l'hypothèse populiste. Moi aussi, je suis le premier à déplorer cette simplification catastrophique du débat, mais n'y contribuons pas en retour. Et je crois d'ailleurs que ce qu'on disait tout à l'heure de l'utilisation de la mémoire, quand Emmanuel Macron dit que nous vivons dans le climat des années 30, fondamentalement, je vois là une forme de violence très grande. Il se trouve que, à titre personnel, je ne partage pas du tout l'idée d'Emmanuel Macron sur la question de la souveraineté et l'idée que seule une souveraineté européenne pourrait nous faire exister dans le monde de demain. C'est un désaccord. Ce désaccord me paraît légitime. Ne pas croire à la souveraineté européenne ne fait pas de moi un nationaliste habité par une forme de lèpre. Et c'est inouï. Et je crois qu'il y a un populisme des élites. Un populisme en retour. Parce que qu'est-ce que c'est que le populisme? Ça n'est pas d'abord le fait de vouloir briser les intermédiaires entre le chef d'État et le peuple. Ça n'est pas d'abord le fait de rêver une communauté nationale fantasmée. Le populisme, c'est d'abord le fait de refuser toute légitimité à un désaccord politique. Eh bien, je vois dans cette utilisation, dans cette manipulation des catégories historiques, dans cette volonté de tout ramener toujours à un ourfascisme des origines, je vois là quelque chose qui ressemble vraiment très directement et qui nourrit très directement ce qu'on appelle le populisme.
Thierry Pech.
Je définirais pas du tout le populisme comme vous le faites, François-Xavier. Les populismes, en tout cas, qu'on voit à l'œuvre en Europe et ailleurs dans le monde, sont, comment dire, reposent sur une absolutisation du suffrage. Ils refusent pas le désaccord. Ils disent les désaccords se jouent dans les urnes et nulle part ailleurs. C'est ça le problème.
Ah si, il y a aussi un refus du désaccord.
Non, je crois pas.
Quand on dit à ses opposants, vous direz en prison.
Oui, bien sûr. Mais en réalité, ils ne le font pas. Il est à souhaiter qu'ils ne le fassent pas. Et la violence politique peut être d'une autre nature. Elle peut simplement consister à dire à la police, servez-vous de vos armes, aussi souvent que nécessaire. Et d'ailleurs, je donne à tout le monde le droit d'en porter. Et ça crée de la violence. Bon. Mais ni Bolsonaro, ni Orban, ni Poutine, etc., ne sont le produit d'autre chose que des élections. Et en revanche, ce qui les caractérise, c'est une forme de césarisme bonapartiste renouvelé, si vous voulez, c'est qu'en dehors des élections, point de légitimité. Point de légitimité à la presse, point de légitimité aux corps intermédiaires, point de légitimité même à la justice, si vous écoutez Kaczynski. Bon. C'est ça le fond du problème, si vous voulez. C'est que, comme dit Rosan Vallon, et comme disaient les révolutionnaires français, le peuple doit avoir une bouche, mais il doit aussi avoir un œil. La bouche, c'est les élections, le peuple parle, mais il ne parle pas tout le temps. En revanche, l'œil, il reste toujours ouvert. Et l'œil, c'est quoi? L'œil, c'est la presse, l'œil, c'est la justice, l'œil, c'est tous ces acteurs qui font que les gouvernants restent sous contrôle, sous surveillance. Et moi, ce qui m'inquiète dans les populismes actuels, et là, c'est un point commun avec les fascismes d'autrefois. Je ne dis pas que c'est la même chose, mais c'est un point commun, c'est que ces gens voudraient s'émanciper de tout contrôle autre que le suffrage. Et donc, je ne pense pas qu'on puisse dire qu'ils refusent la contradiction, mais ils disent que la contradiction ne se réglera que dans ces termes-là, c'est-à-dire dans la procédure électorale. À supposer qu'ils soient capables de rendre le pouvoir qu'ils ont conquis, et ça, on verra si c'est le cas.
C'est toute la question, en effet, elle est centrale dans cette affaire et dans cette époque-là, Dominique Régnier, c'est de savoir si la multiplication de ces leaders, de ces présidents populistes, met en danger la démocratie.
C'est une des formes de... Bien sûr, c'est un des dangers qui pèsent sur le futur des démocraties. C'est pas le seul. La démocratie est menacée de toutes parts aujourd'hui. Et le populisme est sans doute la forme de menace la plus problématique parce ça repose sur une ambiguïté. Fondamentalement, si on devait donner un critère au populisme, on serait surpris parce qu'on dirait, au fond, c'est l'appel au peuple. C'est exactement ça, la démocratie. Et donc, il y a une ambiguïté, je dirais, presque intrinsèque, intime.
Génétique. Ouais.
Voilà, qui fait que quand on... Dans le régime démocratique a des propensions populistes. Tous les leaders politiques sont un peu populistes. Tous les discours pour haranguer les foules ont un moment populiste. On ne peut pas y échapper. La question, c'est de savoir si on arrive à le réguler. Et puis, bien sûr, la culture démocratique ne se limite pas, en effet, Thierry Pech, à la question du suffrage. Le problème de ces populistes-là, c'est d'une part
de savoir rendre le pouvoir. Nous verrons, parce que pour le moment, ça n'est pas très conclusif. En tout cas, ça n'est pas très rassurant. La deuxième question, c'est la culture du droit des minorités. C'est une autre façon d'exalter le suffrage. Une fois que vous avez gagné, vous avez tous les droits. Non, bien sûr, les perdants ont des droits, y compris le droit de rejouer la partie et bien d'autres droits. Et ça, on ne le voit pas. Et c'est dans l'évolution d'un régime politique sous fanion populiste vers une forme d'autoritarisme qui est, à mon avis, un malentendu, mais qui se déroule et qui se déroulera, moi je le crains, jusqu'au bout, qui est un malentendu. Parce que la question qui est posée par les peuples, au Brésil comme ailleurs, c'est une question de puissance publique. Je vous demande, vous la puissance publique, de venir me protéger, de m'aider à déployer ma vie, à protéger les miens. C'est cela qu'on en demande à une puissance publique, c'est une demande légitime. Cet échec-là nourrit des entreprises politiques qui, elles-mêmes, évidemment, n'ont pas beaucoup d'intérêt pour cette demande légitime, mais vont plutôt conforter leur pouvoir et tenter de ne jamais le rendre. Donc on est dans une... Le populisme que nous voyons et n'est pas la dernière étape, c'est l'avant-dernière étape sur un chemin autoritaire.
Alors à l'inverse, il y a une lecture complètement à rebrousse-poil de l'époque qu'on pouvait lire abondamment cette semaine, qui circulait beaucoup sur les réseaux sociaux, qui a été beaucoup commentée par la presse européenne, c'est la parution du Triomphe des Lumières, cet essai de l'anglo-saxon du Canadien Steven Pinker qui relativise, lui, notre perception d'une époque où la démocratie serait en train de décliner, qui rappelle que selon une étude en 2015, le nombre de personnes vivant dans des pays plus démocratiques qu'autocratiques aurait atteint les 2/3 de l'humanité, contre 1% de la population au début du 19e. Alors bien sûr, il est éminemment contesté.
Alors, malheureusement, ça c'est faux. Malheureusement, le nombre de démocraties et le nombre de personnes vivant sous le régime démocratique est en déclin depuis 3 ans. Ça, c'est factuellement, c'est faux.
D'où vient cette erreur de chiffre?
Peut-être parce qu'il a, et c'est passionnant de le lire, parce qu'il prend un contre-pied assez radical, dans lequel il n'y a pas que... Il y a beaucoup de vérité aussi. C'est cette espèce de... C'est l'époque dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Tout ne va pas mal. Le pire n'est pas sûr. Mais nous sommes vraiment sur une espèce de ligne très étroite, de ligne de crête. Et selon la compréhension que l'on aura, selon le comportement que l'on aura les uns et les autres, et je rejoins ce que disait François-Xavier Bellamy tout à l'heure, on tombera d'un côté ou de l'autre, mais c'est une... Heureusement, ça n'est pas absolument sombre, mais là-dessus, il se trompe sur l'évolution des démocraties dans le
il
monde.
Il pêche par excès d'optimisme. Oui. Je vous voyais opiner du chef François-Xavier Bellamy à l'idée d'une époque où on serait comme ça sur le fil du rasoir.
Alors, ce qui est certain, c'est qu'on voit que le taux d'adhésion à la démocratie baisse dans bien des sondages, notamment chez les jeunes, ce qui est quelque chose d'assez inquiétant. Et surtout, l'erreur sans doute de Pinker, c'est de croire que la statistique suffirait, c'est-à-dire que la démocratie n'est pas binaire, nous ne sommes pas ou non en régime démocratique, nous sommes dans des états, dans des formes politiques dont la santé démocratique est plus ou moins grande. Et de ce point de vue-là, je crois qu'il faut s'inquiéter sur la santé de nos démocraties. Tout à l'heure, Thierry Pech, vous parliez de la nécessité de ce contrôle et qui est évidemment nécessaire. Mais là aussi, est-ce que nous avons suffisamment veillé à la santé de ces outils de contrôle démocratique que sont la presse, le monde intellectuel, les universités? Je crois que ce que fait Bolsonaro vient aussi comme un résultat, comme le disait Dominique Régnier, de l'instrumentalisation de beaucoup de ces outils ou de l'absence de pluralisme qui a pu y régner.
La démocratie n'est jamais la fin de l'histoire, mais une histoire sans fin. C'est ce qu'on peut lire dans Yashamunk, le peuple contre la démocratie. Le livre pendant qu'on peut lire à celui de Pinker. Le mot de la fin, Thierry Pech.
Oh ben non, il faut qu'on se revoie.
Ben revoyons-nous. Alors prenons rendez-vous, ça tombe bien.
Et qu'elle continue.
Nous aurons rendez-vous très prochainement tous ensemble pour un nouveau numéro de l'Esprit Public. Merci infiniment Elisabeth Rudinou, Sinesco, Thierry Pech, François-Xavier Lamy et Dominique Régnier. Merci à Luc Jean Reynaud qui a réalisé cette émission, à Marine Beccarelli qui l'a préparée avec moi, à la technique aujourd'hui Nicolas Delmas. À suivre, il nous faut du chocolat, donc du magnésium pour nous remonter le moral après de tels débats, ce que nous allons faire tout de suite en compagnie de Caroline Brouet, l'équipe des Bonne chose est au Salon du Chocolat et accueille également, fin d'émission, Juliette Binoche. Et puis après le journal, vous retrouverez comme tous les dimanches Marc Weisman en compagnie de Yasmina Reza. Et puis surtout, notez bien Julie Gacon, dimanche et après 18h15, qui reviendra sur le vote en Nouvelle-Calédonie. Quant à moi, bien sûr, je vous donne rendez-vous dimanche prochain, 11h. À bientôt, bonne semaine.